Chapitre 5. En septembre, le fils de la mère Marienne revint de prison. Lui aussi avait aimé le père de Valserine, et sa peine fut grande en apprenant sa mort. C'était un homme silencieux et doux, aux grands yeux paisibles, et dont les cheveux commençaient seulement à grisonner. Il parlait à sa mère avec un grand respect et sans jamais la contredire. Mais quand il s'adressait à Bernard, sa voix prenait un accent joyeux et tout son visage rayonnait de tendresse. À l'encontre du père de Valserine, le bonheur n'avait pas habité sa maison. Sa femme, qui aimait le bruit des villes, était partie un dimanche, abandonnant la montagne et le petit Bernard pour toujours. L'enfant, qui n'avait pas 2 ans alors, avait grandi sans souci de ces choses. Et dès que la petite Valserine avait pu le suivre, il l'avait fait participer à tous ses jeux, n'ayant pas d'autres camarades. À courir par les sentiers de la montagne, il était devenu fort avant l'âge. Et la mère Marienne, qui croyait retrouver en lui le caractère audacieux de son mari, avait tout de suite parlé d'en faire un contrebandier habile. Mais le père, avec une fermeté douce qu'aucune raison n'avait pu ébranler, avait refusé la contrebande pour son enfant et l'avait conduit à Saint-Claude afin qu'il apprît le métier de pipier. Bernard avait tout de suite fait montre d'une adresse surprenante à façonner les pipes. Et, son apprentissage terminé, il avait aussitôt pris rang parmi les meilleurs ouvriers de la fabrique. De plus, il aimait son métier par-dessus tout et ne désirait rien d'autre que de le continuer toute sa vie. À présent que son père était revenu, il parlait de retourner sans retard à Saint-Claude, où un travail plus rémunérateur l'attendait. À l'inverse de Bernard, Valserine ne parlait nullement de départ. Cependant, la mère Marienne aurait bien voulu la voir retourner aussi à Saint-Claude, où Madame Rémy la réclamait avec insistance, craignant surtout que l'apprentissage si difficile des premiers temps ne fût perdu et qu'il fallût tout recommencer. Mais Valserine paraissait avoir oublié la diamanterie autant que la maison de Madame Rémy. Elle prenait goût à soigner les bêtes et les menait paître en remplacement de la mère Marienne, et bien souvent elle ne les ramenait de la forêt qu'à la nuit noire. Dans la maison, elle ne savait s'occuper à rien. Seul le travail de Bernard retenait de temps à autre son attention, et il lui arrivait de prendre des pipes sur la table et de les retourner longuement entre ses doigts. Un jour qu'elle était plus attentive encore, la mère Marienne en profita pour l'encourager à reprendre son métier et retourner à Saint-Claude en même temps que Bernard.
« Te voilà presque grande, lui dit-elle, et il te faut absolument gagner ta vie. »
Valserine abaissa son visage sans répondre. Elle écoutait le léger claquement des pipes que Bernard prenait dans la corbeille pour les ranger par groupes sur la table. Et brusquement, elle demanda
« Est-ce que les femmes font aussi des pipes ?»«
Oui, dit la mère Marienne. » Et ses yeux brillaient étrangement tandis qu'elle ajoutait
« J'étais polisseuse de pipes avant de me marier. »
Et comme si sa jeunesse lui revenait d'un seul coup à la mémoire, elle parla avec une vivacité extraordinaire de Saint-Claude et du quartier de la Poya où ses parents avaient été pipiers. Elle dit comment les polisseuses de pipes entouraient leurs cheveux d'un mouchoir pour les protéger contre la poussière de racines de bruyère qui les teignait dans une couleur rose foncé. Elle nommait les jeunes filles d'alors comme si Valserine les avait connues.
Adèle portait un mouchoir bleu, Agathe en avait toujours un jaune.
Et avec un mouvement très haut de la tête, elle ajouta
« Moi, j'en portais un rouge !»
Elle toucha celui qui était sur sa tête, et comme si ce simple toucher lui rappelait que celui-ci était de couleur noire, ses yeux cessèrent de briller. Il y eut un silence. La mère Marienne semblait regarder dans le passé. Et son fils, qui n'avait pas bougé tandis qu'elle parlait, se rapprocha de Bernard pour l'aider à empaqueter les pipes qu'il venait de terminer. Valserine, qui n'avait pas bougé non plus, se mit soudain debout et dit avec fermeté
« Je veux être polisseuse de pipes !»
La mère Marienne se mit debout aussi pour demander, tout étonnée
« Tu aimes mieux être polisseuse que diamantaire ?»«
Oui !» fit Valserine en la regardant bien en face. Et, tout en repoussant des deux mains ses boucles brunes, elle ajouta très vite
« Les pipes sont plus belles que le diamant !»
Bernard et son père se mirent à rire, et la mère Marienne, qui ne riait pas, dit en touchant les pipes
« C'est vrai qu'elles sont plus belles, et le diamant ne sert à rien !»
À quelques jours de là, Bernard, qui était allé reporter des pipes, revint de Saint-Claude avec la réponse que Valserine attendait. Elle habiterait, comme par le passé, chez Madame Rémy. Mais, au lieu de retourner à la diamanterie, elle entrerait à la fabrique de pipes où Bernard était ouvrier. Dès le lendemain, accompagnée de Bernard et de son père, Valserine se rendit à sa maison. Elle voulait revoir chaque chose avant son départ et aussi emporter certains objets qui lui seraient des souvenirs précieux. Tout en grimpant le chemin raviné, elle songeait à la cachette où elle désirait se reposer une fois encore, craignant que, pendant les mois d'hiver, le sable et les cailloux ne viennent à la combler et emboucher pour toujours l'ouverture. Mais à peine arrivée en haut du chemin, elle vit que le mal était déjà fait. Les énormes pierres qui, autrefois, se dressaient au-dessus du trou, s'y étaient enfoncées, déplaçant dans leur chute une masse de terre, des arbres et des pierres de toute taille. Aux alentours, tout était désordre. Des sapins tombés de haut restaient la tête en bas, toutes racines au vent, tandis que d'autres, à moitié déracinés, se penchaient et s'appuyaient de toutes leurs branches à ceux qui avaient la chance d'être restés debout. La cabane de la chèvre elle-même n'avait pas été épargnée. Tout un côté était détruit et le trop-plein de terre accumulé sur son toit glissait le long des planches et menaçait de l'ensevelir. Pas très loin, en contrebas, deux cantonniers achevaient de construire avec des fagots une sorte de mur de soutènement pour empêcher les arbres déracinés de glisser jusqu'à la route proche. Dans la maison, rien n'était changé. Valserine y retrouva le lourd silence qu'elle y avait laissé dans sa nuit d'attente. Et, comme dans cette nuit-là, il lui vint le désir violent de voir tout à coup entrer son père. Mais, par la porte ouverte, dans le doux soleil d'octobre, seules les feuilles pourchassées par le vent s'engouffrèrent et s'éparpillèrent en bruissant sur les dalles, où elles restèrent sans plus bouger, comme si elles avaient enfin trouvé là un lieu de repos. Ce fut le grand jardin carré qui retint le plus longtemps les trois amis. Appuyés contre la haie basse, d'où ils découvraient toute la vallée, ils regardaient au loin l'endroit où le contrebandier s'était fait prendre. On ne voyait pas le bas de la pente où il était tombé. Mais dans la clairière, on apercevait un vieil arbre mort, devenu couleur de pierre, et qui, à cette distance, semblait une croix à laquelle manquait un bras. Valserine, dont le chagrin renaissait, dit soudain
« Si je n'avais pas crié ce jour-là, papa serait encore en vie !»«
Peut-être bien, » fit doucement le père de Bernard. Et comme pour consoler la fillette, il ajouta très vite
« Beaucoup se sont perdus à faire ce métier-là !»
Après un silence, il dit encore, la voix sourde comme en colère
« C'est un métier de malheur !»
Et Bernard, qui tenait les yeux fixés sur son père, vit bien qu'il ne ferait jamais plus de prison pour contrebande. Tous trois revinrent sans se presser chez la mère Marienne. Bernard disait sa joie de reprendre un travail régulier aux côtés d'une camarade qu'il aimait de tout son cœur, son père assurant que les deux jardins et les soins à donner aux bêtes l'occuperaient suffisamment. Et Valserine marchait auprès d'eux, les lèvres serrées, n'osant avouer son regret de quitter la montagne avec ses plateaux, ses sous-bois et ses précipices. Le lundi suivant, Bernard et Valserine furent levés de bon matin, car il fallait gagner Saint-Claude à pied. Au moment où ils s'éloignaient, la mère Marienne rappela Valserine pour lui remettre un mouchoir noir.
« Prends-le, lui dit-elle, il te servira pendant le temps de ton deuil. »
La fillette la remercia d'un mouvement vif et affectueux, puis, en courant, elle rejoignit Bernard qui s'engageait déjà dans le sentier difficile qui allait, de beaucoup, raccourcir leur trajet. La mère Marienne et son fils, sortis de leur maison, les regardèrent s'éloigner. Il s'émerveillait de les voir si agiles dans ce chemin tout en zigzag et en fondrière, où peu de gens osaient s'aventurer. Ils virent Bernard prendre Valserine à la taille pour lui faire franchir un passage dangereux. Ils virent le baiser que la fillette mettait sur la joue de Bernard pour le remercier de son aide. Et, quand les jeunes gens eurent disparu derrière une masse de rochers, la mère Marienne désigna du doigt la maison de Valserine en disant à son fils
« Aie-en soin autant que du jardin, car je suis sûre que ces deux enfants-là y demeureront ensemble un jour. »
Comme pour fêter le départ de Valserine, tout était clair dans la vallée ce matin-là. Des fils de la Vierge, tout brillants de rosée, se balançaient d'un arbre à l'autre et semblaient des écharpes de tulle disposées exprès pour elle le long du chemin. Le soleil, qui ne pouvait donner toute sa chaleur, donnait cependant toute sa lumière. Et pour que rien ne vînt assombrir cette lumière, un vent frais déchirait en tout petits morceaux les nuages qui voulaient se reposer sur la montagne. C'était l'époque où les troupeaux de génisses descendent par bandes des hauts plateaux, et déjà, la montagne était pleine du bruit de leurs clochettes. Des pâtres chantaient, et leurs voix fortes s'élevaient des routes et des sentiers. L'un d'eux, un jeune et solide garçon, quitta son troupeau pour descendre au fond du ravin, où un large ruisseau chantait aussi. Il écarta violemment les broussailles qui s'accrochaient à son habit, comme pour le retenir au passage. Il évita les rochers tout tapissés de mousse qui se creusaient en forme de siège. Et quand il eut coupé à un vieux saule sa plus belle branche, il fit retour par le même chemin en cognant ses souliers pleins de terre contre les rochers et en cédant des broussailles qu'il avait si fort malmenées auparavant. Et dès qu'il fut en haut, il souleva son chapeau comme pour un adieu et s'en alla rejoindre son troupeau qu'il attendait patiemment sur la route. Dans ce bruit de chants et de clochettes, Valserine suivait le pas allongé de Bernard sans en ressentir la moindre fatigue. Une joie qu'elle n'avait pas prévue se levait en elle. Il lui semblait qu'elle était devenue tout à coup responsable d'elle-même et qu'aucune volonté ne viendrait désormais contrecarrer la sienne. Elle avait envie de chanter comme les pâtres et de descendre au fond du ravin comme le fort garçon. Elle avait envie de s'asseoir dans tous les creux de rochers et de courir d'un caillou à l'autre avec le ruisseau d'en bas. Et lorsqu'elle se trouva face à face avec le bouleau solitaire qui l'avait si souvent attristé, elle se mit à rire en le voyant secouer fortement ses feuilles jaunies comme pour se débarrasser d'un vêtement usé. Le voyage continuait rapide. Bernard, qui connaissait tous les passages secrets, n'en négligeait aucun et se servait peu de la route. Dans les sentiers resserrés, où on ne pouvait avancer qu'un seul à la fois, il se retournait à tout instant vers sa compagne pour l'encourager du regard. Et chaque fois, dans ses yeux brillants et noirs comme ceux de sa grand-mère, Valserine retrouvait la douceur et la tranquillité qu'il tenait de son père. Ils se reposèrent un moment sur les hauteurs de Montbrillant, d'où ils pouvaient voir Saint-Claude enfoncé au creux des monts, et qui semblait une ville tombée au fond d'un gouffre. Ensuite, ils dépassèrent des tailleries de diamants, des moulins, des scieries, où le travail battait déjà son plein. Puis ils laissèrent derrière eux un village et entrèrent enfin dans la ville, où ils gagnèrent presque en courant la fabrique de pipes. Bernard prit Valserine par la main pour la conduire au polissage. Elle traversa avec lui l'atelier des hommes, où les scies filaient des sons aigus en donnant une forme aux racines de bruyère. Elle vit voler sur elle et autour d'elle les fins copeaux roulés qui sautaient des établis, pendant que les machines à tourner et à percer chantaient comme des essaims de bourdons dans la montagne. Elle remarqua les visages ouverts et pleins d'énergie des ouvriers. Et quand elle entra dans l'atelier des polisseuses, elle regarda sans crainte les ouvrières toutes debout et tournées vers elle, attendant sa venue. Elle eut encore le temps de voir le poêle en forme de pipe au milieu de la pièce, et tout de suite, une jeune fille vint la prendre pour la conduire à sa place. La jeune fille écartait du pied les caisses et les paniers qui encombraient le passage, et après avoir aidé Valserine à mettre sa blouse de polisseuse, elle lui offrit un mouchoir de même couleur que celui qu'elle portait elle-même. Valserine eut un sourire qui éclaira tout son visage en repoussant le mouchoir bleu. Puis elle tira de sa poche celui que la mère Marienne lui avait donné et elle en couvrit aussitôt ses cheveux.